tous les Auroviliens. Alors aujourd'hui, je vous souhaite une merveilleuse bonne année 2022. À tous les Auroviliens d'Auroville, de l'Inde et du monde. Et je continue de vous lire le trépas de Sri Aurobindo. C'est la conclusion finale. Mais il est essentiellement de l'essence, du sacrifice et de la stratégie, aussi bien que typiquement qu'une résistance âpre s'allie à une vaste et paisible acceptation. C'est pour cela que nous avons dit que Sri Aurobindo est mort en combattant. Ne jamais accepter les imperfections de la nature était sa devise. Car il voyait que le secret même de l'évolution est la manifestation dans la nature terrestre de ce qui, superficiellement, paraît impossible. Le frémissement de la vitalité et de la sensibilité dans une matière apparemment sans vie, le miroitement de l'intellect et de la pensée dans une animalité apparemment instinctive, la révélation du supramental apportant la perfection dans une intelligence ostensiblement habituée à tâtonner dans une force de vie capable de faux pas et dans un corps soumis à la mort. C'est pourquoi, pour Sri Aurobindo, il n'aurait jamais pu être question ni de soumission aux conditions ordinaires du monde, ni de fuite dans la paix hors du monde. Il connut toujours une paix inviolable dominant le temps depuis ces trois jours mémorables de Baroda en 1908, où il atteignit par le complet silence mental l'expérience absolue du nirvana, qui fut l'aboutissement de tant d'autres yogas, mais ne fut pour lui qu'une base vers de nouvelles conquêtes. Quant à se rendre, il ne pouvait se rendre à rien d'autre qu'au divin. En conséquence, il se battit pour la descente du supramental jusqu'à son dernier souffle, faisant descendre l'immortel soleil de l'esprit, emmagasinant passionnément la lumière supramentale dans son enveloppe terrestre, à un tel point en vérité qu'il put préserver pendant quelques jours cette enveloppe de la corruption et même de la décoloration. De se battre ainsi, au moment même du sacrifice, était en accord avec l'effort de toute sa vie. N'a-t-il pas lui-même exposé dans une lettre la technique du triomphe dans ce qui peut sembler une chute? Même si je prévois un résultat adverse, je dois travailler pour celui que je considère devoir être, car cela garde en vie la force, le principe de vérité que je sers, et lui laisse une possibilité de triompher ensuite, ce qui fait que cela devient partie de l'accomplissement du destin futur favorable, même si le destin de l'heure présente est contraire. Sur cette phrase prophétique, nous pouvons terminer notre tentative d'élucider un peu le mystère de cet aspect de majestueuse méditation que le maître garda depuis le matin du 5 décembre et pendant plus de 111 heures, étendu sur le simple lit de sa chambre où il avait passé plus de 20 ans dans un travail intensif de portée mondiale. Spirituellement impérial était la seule expression qui convenait à son apparence corporelle. Le maintien majestueux, avec la barbe blanche et les cheveux blancs tombant autour du front puissant, des yeux tranquilles aux paupières fermées et le nez aquilin aux narines bien dessinées. Les lèvres fermes dont les coins étaient touchés par la béatitude, les larges épaules rondes, les bras repliés, les mains reposant sur sa poitrine indomptable, mains d'artiste et pourtant mains puissantes, des hanches viriles couvertes d'une ample étoffe de soie liserée d'or. Les jambes étaient enfin étendues avec une majesté innée qui semblait se souvenir d'avoir pendant 79 ans foulé de leurs pieds sacrés une terre qu'il avait bénie et possédée à la fois. L'atmosphère de la chambre était vibrante d'un pouvoir sacré, purificateur et illuminateur, un pouvoir qui semblait émaner de l'équilibre de ce repos vainqueur qui pénétrait tous les veilleurs avec une force leur martelant le cerveau, comme si redoublant d'intensité en raison du retrait de Sri Aurobindo, son corps physique venait se déverser sur l'humanité la grâce transfiguratrice du supramental. Nous pouvons ajouter que la présence même de Sri Aurobindo était étrangement devenue plus intense. Lui, qui s'était si longtemps claustré dans une chambre afin de hâter par la concentration le processus yogique de transformation dont la merveilleuse félicité dynamique était transmise aux disciples par la mère au moyen de sa proximité physique, avait créé, en abandonnant son enveloppe charnelle, une nouvelle intimité avec eux et les avait pris encore plus directement dans son être immense. Ce serait à peine faire justice à cet être que de le penser seulement comme une immensité enveloppante. Derrière l'écorce matérielle existent les autres véhicules organisés, Sharira, le subtil et le causal, Sri Aurobindo, qui avait amené le causal éloigné dans le subtil proche, le poussé et le pressé dans l'enveloppe extérieure au moment de son sacrifice stratégique. Pour reprendre ces mots, la transformation avait été faite à un degré suffisant sur les autres plans. Ceci signifie qu'il gardait le supramental incorporé dans l'enveloppe subtile et qu'aucune nécessité occulte, aucune loi de la nature subtile ne pouvait l'obliger à abandonner cette dernière enveloppe pour retourner à un plan où l'âme aurait à se reposer avant de renaître avec un nouveau corps subtil, aussi bien ou avec qu'avec un nouveau corps matériel. Le maître, à l'heure où il quitta son corps, était à même de faire bien davantage qu'être le Purusha, l'être ou l'âme, cosmique et transcendant dont le yoga supramental l'avait fait la personnalité incarnée. Il pouvait effectivement devenir ce Purusha actif dans un corps subtil indissoluble, à la fois humain et divin, en contact bien direct et constant avec le monde matériel qui ne pouvait l'être, que ne pouvaient l'être les formes que les mystiques prêtent aux rishis, prophètes et avatars. Dans un sens très spécial par conséquent, Sri Aurobindo, cette personnalité gracieuse et merveilleusement douée, notre gourou, notre maître spirituel que nous aimions, est encore à l'œuvre. Et c'est une vérité concrète que la mère a exprimée en disant « S'affliger, c'est insulter Sri Aurobindo qui est ici même avec nous, vivant et conscient. » La même vérité concrète est enchâssée dans le magnifique message du 7 décembre qu'elle nous a transmis des profondeurs où elle et Sri Aurobindo ne sont qu'un. Seigneur, tu m'as donné l'assurance ce matin que tu resteras avec nous jusqu'à ce que ton œuvre soit achevée, non pas seulement comme une conscience qui guide et illumine, mais aussi comme une présence active et agissante. En termes clairs et précis, tu m'as promis que tout de toi resterait ici et ne quitterait pas l'atmosphère de la terre jusqu'à ce que la terre soit transformée. Permet que nous soyons toujours dignes de cette merveilleuse présence et que dorénavant tout en nous soit concentré sur l'unique volonté d'être de plus en plus parfaitement consacré à l'accomplissement de ton œuvre sublime. Ainsi, l'œuvre continue. Mère affrontant le futur avec le maître sous une forme subtile à ses côtés. Et pour ceux qui ont foi dans l'achèvement de l'œuvre et qui comprennent ce qu'elle signifie, existe un espoir qui voit l'avenir riche d'une possibilité particulièrement consolante. Sri Aurobindo a décrit au sujet de l'époque où la descente du supramental dans la chair vivante sera réalisé. Suivant la théorie des occultistes et en accord avec l'échelonnement des domaines et des plans de notre être que la connaissance yogique nous révèle, il n'existe pas seulement une force physique subtile, mais aussi une matière physique subtile, intermédiaire entre la vie et la matière grossière. Créée dans cette substance physique subtile et précipiter la forme ainsi créée dans notre matérialité plus grossière est une chose faisable. Il devrait être possible, et certains affirment qu'il est possible, pour un objet formé dans cette substance physique subtile d'être transféré dans sa subtilité, dans l'état de la matière grossière, directement par l'intervention d'une force ou d'une méthode occulte, que ce soit avec ou même sans l'aide ou l'intervention d'un procédé matériel grossier. Une âme désirant entrer dans un corps ou se construire pour elle-même un corps afin de participer à une vie divine sur Terre pourrait être aidée à le faire ou même pourrait recevoir une forme par ce procédé de transmutation directe sans passer par la naissance produite par l'acte sexuel et sans être soumise dans sa croissance mentale et le développement de son corps matériel à la dégradation ou à aucune des lourdes limitations qui sont inévitables dans notre présente condition d'existence. Elle pourrait alors assumer tout de suite la structure, les fonctions et les pouvoirs plus grands d'un corps matériel vraiment divin, tel qu'il doit un jour surgir par une évolution progressive vers l'existence totalement transformée à la fois de la vie et de la forme dans une nature terrestre divinisée. Ces mots donnent l'espérance que Sri Aurobindo, qui avait déjà divinisé l'enveloppe physique subtile, pourra employer le mode supramental de manifestation pour présider dans le domaine même de la matière à la nouvelle humanité que la mère initiera. Dans une aurore dorée d'un âge divin, mère sera le premier être à atteindre progressivement un corps divin, un corps né d'une façon humaine, tandis qu'aidé par l'accomplissement de la mère, Sri Aurobindo sera le premier à endosser le vêtement physique de la transformation par une projection de substance et de forme émanant de la super nature. Rien évidemment n'est certain de ce que Sri Aurobindo voudra faire, mais la possibilité que nous exposons n'est pas en désaccord avec la lumière inextinguible et victorieuse que nous avons entrevue au-delà de l'humain. Dans l'événement qui, au regard superficiel du monde aspirant, apparaît comme un coucher de soleil universel, le trépas de Sri Aurobindo. Kade Setna, traduit de l'anglais, mais Kade Setna et Amal Kiran. Alors, aujourd'hui, j'ai terminé le trépas de Sri Aurobindo et je remercie infiniment la signification profonde de son départ et son importance. Merci Sri Aurobindo, merci Mère, merci Amal Kiran. Merci Priya, Ganga Lakshmi, Agenda of the Mother, Savitri Bhavan.
This is Auroville Radio, voices from the City of Dome.